Chapitre 13. Vox populi, vox dei. Le chevalier de Pardaillan avait attendu la sortie de Jeanne avec la patience d'un amoureux. Il était résolu à lui parler. Pour lui dire quoi? Qu'il aimait sa fille? Qu'il la voulait pour épouse? Cela peut-être. Au fond, il ne savait pas trop et souhaitait simplement de se rapprocher de la mère et de la jeune fille. Lorsqu'il la vit sortir et revenir vers lui, il prépara donc un discours très propre, selon lui, à produire une vive émotion sur celle qui l'écouterait. Malheureusement, à la minute où la dame en noir passa près de lui, il en vint justement à oublier le commencement de son discours, le plus beau passage, selon lui, toujours. Il demeura donc bouche bée. Jeanne passa, et le chevalier soulevait son chapeau dans un de ces grands gestes qui lui étaient familiers, que déjà elle était loin de lui. Pardaillan s'élança alors en se disant qu'il se donnait jusqu'à la rue Saint-Denis pour aborder la dame en noir et lui exposer sa requête, à laquelle, pour plus de précaution, il adjoignit une péroraison des plus pathétiques. Car maintenant la mémoire lui revenait. Le chevalier, ne songeant même pas que le moyen le plus simple et le plus convenable après tout, c'était de se présenter au logis de la dame. On ne songe pas à tout, et il avait résolu de parler tout de suite. Mais lorsqu'il déboucha dans la rue Saint-Antoine, il trouva que l'aspect de Paris avait changé, comme autrefois, à l'approche des premières rafales d'une tempête, l'océan change brusquement de face. Des groupes nombreux, bourgeois et peuples mêlés, marchaient dans la direction du Louvre. La grande artère était devenue un fleuve d'hommes, d'où montaient des murmures menaçants, parfois des éclats de voix. Que se passait-il? Pardaillan cherchait à ne pas perdre de vue la dame en noir qui marchait à 20 pas devant lui. À un moment, un de ces remous violents qui font tourbillonner les foules sans qu'on sache pourquoi, se produisit. Jeanne, enveloppée dans ce remous, disparut. Le chevalier s'élança, distribuant force au rayon, jouant des coudes et se frayant un passage à coups de bourrade. Mais il ne retrouva plus la dame en noir. Alors, il se laissa entraîner par la foule qui devenait plus serrée, plus compacte. Devant lui, bras dessus, bras dessous, marchaient 3 hommes, 3 Hercules, avec des coups de taureau, des faces rouges, des yeux menaçants. Et la foule, sur leur passage, vociférait. « Vive Kervier! Vive Pezou! Vive Cruzet !»« Quels sont ces 3 éléphants ?» demanda Pardaillan à son plus proche voisin. Le voisin, respectable bourgeois d'apparence cossue, regarda le chevalier de travers, mais voyant qu'il portait une belle rapière, il répondit poliment. « Comment, monsieur, vous ne connaissez pas Crucet, l'orfèvre du pont de bois? Et Pezou, le boucher de la rue du roi de Sicile? Et Kervier, le libraire de l'université? Kervier, surtout ! On voit bien que vous ne vous occupez pas de livres, monsieur. Excusez-moi, j'arrive de province, dit Pardaillan. Ah, c'est là le boucher, le libraire et l'orfèvre? Bon, je suis content d'avoir vu cela, moi. Les 3 grands amis de monsieur de Guise, continua le bourgeois enthousiasmé. Peste, c'est bien de l'honneur pour monsieur de Guise. « Oui, monsieur, les défenseurs de la sainte religion, s'il vous plaît. »« Laquelle ?» demanda froidement Pardaillan. « Laquelle ?» fit l'homme stupéfait. « La nôtre, monsieur. Celle du pape, celle du roi, celle de la reine, celle du grand Guise, celle du peuple. »« Ah, très bien. Et que veut-elle, notre religion ? Car une religion qui est à tant de gens doit être aussi un peu à moi. » Ce qu'elle veut, écoutez. À ce moment, Pardaillan arrivait près du pont de bois. Là, une foule énorme, agitée de ses longues et puissantes ondulations, poussait des clameurs. Vive Guise ! Mort aux Huguenots ! Vous entendez ? Dit le bourgeois. Vous entendez le peuple ? Or, vous le savez, vox populi, vox dei. Pardon, observa doucement le chevalier. « Je n'entends pas l'anglais. »« Ce n'est pas de l'anglais, monsieur, » fit l'homme avec dédain. « C'est du latin. et ce latin-là signifie que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà qui est bon à savoir, dit Pardaillan. Ainsi, en ce moment, c'est Dieu qui crie « mort au parpaillot ». Oui, monsieur, et c'est Dieu aussi qui, par la voix de son peuple, acclame le grand Guise pour qui s'est réunie cette foule, le grand Guise qui entre aujourd'hui dans Paris et va passer ici pour se rendre au Louvre. Vive Guise ! Mort à Béarn, mort à Albret ! Le bourgeois, à ce moment, fut séparé de Pardaillan par une poussée du peuple. Une forte escouade d'arbalétriers et d'arquebusiers du guet déblayait les abords du pont pour laisser le passage libre à Henri de Guise, dont on signalait l'approche. Pardaillan était placé à l'entrée du pont, contre la première maison du côté gauche, une vieille bâtisse à demi ruinée et qui, probablement, était abandonnée, car les fenêtres en étaient closes, tandis que toutes les autres maisons du pont laissaient voir des spectateurs jusque sur leurs toits. Cependant, le chevalier remarqua que la première maison du côté droit, qui faisait vis-à-vis à la bâtisse abandonnée, était également fermée. Une seule de ses fenêtres était ouverte, mais cette fenêtre était grillée d'un treillis épais. Derrière ce treillis, dans l'ombre, Pardaillan crut voir un instant une figure de femme dont les yeux incandescents jetaient des regards de flamme sur la foule qui sourdement grondait. « Mort aux Huguenots !» Pourquoi ? Il n'y avait pas à ce moment de Huguenots dans Paris, ou s'il y en avait, ils se cachaient. Et d'ailleurs, la paix signée à Saint-Germain n'avait-elle pas promis aux protestants la tranquillité dans la capitale ? Pardaillan vit tout à coup l'orfèvre, le boucher et le libraire, Crucet, Pezou et Kervier, parcourir vivement des groupes et donner un mot d'ordre. Dès qu'ils avaient passé, on criait de plus belle. « Suze au parpaillot ! Mort à Béarn ! Allô, Albret !» Alors Crucet, Pezou et Kervier vinrent se poster sur le côté gauche du pont, à trois pas du chevalier. « Par Pilate et Barabbas, grommela-t-il, je crois que je vais voir aujourd'hui des choses intéressantes. « Ah, ah !» hurlait à ce moment Crucet. « Voici Monsieur de Biron qui passe, Biron le boiteux. » « Et Monsieur de Mesme, seigneur de Malassise !» ajouta Kervier. « Les signataires de la paix de Saint-Germain !» vociféra Pezou. « Les amis des damnés Huguenots !»« Oh, une paix boiteuse !» ricana tout haut l'orfèvre en désignant Biron qui boitait en effet. « Et Malassise !» compléta le libraire en montrant du doigt le sire de Mesme de Malassise. Autour d'eux, la foule trépigna de joie et hurla. « À bas la paix de Saint-Germain ! À bas la paix boiteuse et mal assise ! Mort au parpaillot !» Crucet leva les yeux vers la fenêtre grillagée où Pardaillan avait cru remarquer un visage de femme. Cette fois, c'était un visage d'homme qui apparaissait derrière le treillis épais. Cet homme échangea un rapide signal avec Crucet, puis disparut dans l'intérieur. Pénétrons un instant dans cette maison, la première, avons-nous dit, sur le côté droit du pont. Là, dans la pièce à la fenêtre grillagée, une femme grande, maigre, tout enveloppée de noir, avec une tête d'oiseau de proie, nez de vautour, bouche serrée, regard perçant, est assise dans un vaste fauteuil. Cette femme, c'est la veuve d'Henri II, la mère de Charles IX, Catherine de Médicis. Près d'elle, un homme jeune encore et qui a dû être fort beau, emphatique de gestes, théâtral d'allure, avec on ne sait quoi de souple dans la démarche et de félin dans les attitudes. Cet homme, c'est Ruggieri, l'astrologue. Que font-ils là, tous les deux ? Quelles mystérieuses accointances permettent à l'astrologue florentin de garder devant la reine cette attitude où il y a plus de caresses que de respect ? Quelle sinistre besogne les a unis dans cette maison ? Catherine frappe nerveusement du bout du pied. Elle paraît impatiente. Parfois, elle frissonne. « Patience, patience, Catarina mia !» dit Ruggieri en souriant d'un sourire livide. « Et tu es sûre, René, qu'elle est à Paris ? Voyons, répète-moi voir un peu cela !» Tout à fait sourd. La reine de Navarre est entrée hier secrètement dans Paris. Jeanne d'Albret est sans doute venue voir quelque important personnage. Mais comment l'as-tu su, Renée ? Parle, mon ami, parle ! Eh, comment l'aurais-je su, sinon par la belle béarnaise que vous avez placée près d'elle ? Alice de Luxe ? Elle-même. Ah, c'est une fille précieuse et une fidèle espionne. Et tu es sûr que Jeanne d'Albret va passer sur ce pont ? Croyez-vous, sans cela, que j'y aurais appelé Crouzet, Pézou et Kervier ? Dit Ruggieri en haussant les épaules. Est-ce pour acclamer Henri de Guise, à votre avis, que le peuple de Paris s'est levé ? Patience, Catherine, vous allez voir. Oh ! Murmura Catherine de Médicis en serrant ses mains l'une contre l'autre. C'est que je la hais, vois-tu, cette Jeanne d'Albret. Guise n'est rien, je le tiens dans ma main et je le briserai quand je voudrai. Mais Albret, voilà l'ennemi, René, le seul ennemi vraiment redoutable pour moi. Ah, si je pouvais donc la tenir ici et l'étrangler de mes mains !« Bah, ma reine, fit Ruggieri, laissez cette besogne au bon peuple de Paris. Tenez, les voilà qui s'apprêtent. Écoutez, regardez, par Altaïr et Aldébaran, s'il est bon de regarder dans le ciel quand d'aussi magnifiques horreurs se passent sur la terre. » En effet, d'effroyables hurlements éclataient au dehors. Ruggieri s'était approché du treillis, suivi de Catherine. Leurs deux têtes penchées se touchaient presque, et maintenant, les dents serrées, les yeux flamboyants, les narines aspirant le massacre, hideux, ils regardaient. « Je ne vois qu'Henri de Guise !» haleta sourdement Catherine de Médicis. « Regardez, là-bas, au bout du pont, cette litière, derrière l'escorte !»« Oui, oui !» La litière ne peut plus reculer, la foule l'enserre. Tout à l'heure, en arrivant ici, les rideaux vont s'écarter un instant. Et ce sera bien du diable si notre ami Crouzet ne reconnaît pas la reine des Navarres. Sur le pont, Henri de Guise s'avançait, suivi d'une trentaine de cavaliers. Il saluait du geste et du sourire, et de temps à autre, il criait « Vive la messe ! Vive la messe ! Mort aux Huguenots ! » répétait la multitude qui délirait. C'était un redoutable et magnifique spectacle. Ces seigneurs de l'escorte, montés sur des chevaux splendidement harnachés, portaient des costumes éclatants ou rutilaient des pierreries. L'or, la soie, le satin, les couleurs chatoyantes, les plumes de leurs toques, les diamants de leurs colliers formaient un merveilleux ensemble. Mais le plus beau de tous, le plus étincelant, c'était leur chef, Henri de Guise. C'est tout au plus s'il avait 20 ans. Il était de haute taille, bien pris, avec un visage où éclatait un somptueux orgueil. Un grand manteau de satin bleu flottait sur ses épaules et sa toque portait un triple rang de perles. « Guise, Guise !» vociférait le peuple avec des acclamations que Catherine de Médicis écoutait en incrustant ses ongles acérés dans les paumes de ses mains. Et là-bas, dans la petite maison de la rue des Barrés, dans le logis de Marie Touchet, le roi de France dormait paisiblement, la tête sur l'épaule maternelle de sa maîtresse. Cependant, Henri de Guise et son escorte avaient franchi le pont. Mais alors, ils trouvèrent la foule si compacte qu'ils durent s'arrêter plusieurs minutes. À ce moment, derrière eux, éclatèrent des clameurs si féroces que le duc de Guise, instinctivement, porta la main à sa dague et fit volte-face. Non, ce n'était pas à lui qu'on en voulait. Il rengaina le poignard, et voici le terrible spectacle qui lui apparut, comme il apparaissait à Catherine de Médicis et à René Ruggieri. Une litière, s'avançant à grand-peine, arrivait au débouché du pont, devant la maison en ruine, près de laquelle se tenaient Crouzet, Pézou et Kervier. Cette litière était modeste et ses rideaux de cuir étaient hermétiquement fermés. À ce moment, les rideaux s'ouvrirent l'espace d'une seconde. Mais cette seconde avait suffi. « Enfer ! » rugit Crouzet, dont la voix de centaure domina les clameurs. « C'est la reine de Navarre ! Mort à la parpaillotte ! « Mort à Jeanne d'Albret !» Et, avec ses amis, il se rua sur la litière. « Enfin !» murmura Catherine, avec un terrible sourire qui découvrit ses dents aiguës. En un instant, un groupe nombreux et discipliné avait entouré la litière, gesticulant et vociférant. « Albret ! Albret ! Mort à Albret ! Allô, la huguenote !» La litière fut soulevée comme un fétu de paille par les lames de l'océan. Renversée, piétinée, elle disparut. Mais les deux femmes qu'elle contenait avaient eu le temps de sauter à terre. « Pitié pour sa majesté !» cria la plus jeune des deux femmes d'une merveilleuse beauté qui, pour des raisons inconnues, ne paraissait pas aussi effrayée qu'elle eût dû l'être. « La voilà ! La voilà !» tonnèrent Cruset et Pezoux en désignant l'autre dame qui tenait à la main une sorte de petit sac de cuir. C'était Jeanne d'Albret, en effet. D'un geste de souveraine majesté, elle ramena son voile sur son visage. Une poussée puissante, irrésistible, la jeta contre la porte de la maison en ruine avec celle qui l'accompagnait. 1000 bras se levèrent. La reine de Navarre allait être saisie, broyée, déchirée. À cet instant, Catherine de Médicis et Ruggieri, du haut de leur fenêtre, le duc de Guise du haut de son cheval, virent un spectacle inouï, fantastique et merveilleux. Un jeune homme venait de s'élancer, balayant la foule à coups de poing, à coups de tête, à coups de coude, entrant, pénétrant comme un coin de fer et semblant faire le vide autour de lui, par une sorte de formidable roulis de ses épaules. En un clin d'œil, il se forma un espace entre la porte de la maison ruinée à laquelle s'appuyaient les deux femmes et la multitude furieuse à la tête de laquelle se trouvaient l'orfèvre, le boucher et le libraire. Alors le jeune homme tira sa longue et solide rapière qui flamboya et se mit à décrire un moulinet vertigineux qu'il n'interrompit que pour lancer de seconde en seconde des coups de pointe furieux, tandis que la cohue, stupéfaite, épouvantée, reculait, élargissant le demi-cercle. « René !» gronda Catherine, « il faut que ce jeune homme meure ou qu'il soit à moi. »« J'y pensais, » répondit Ruggieri en s'élançant. « Saint Maigrin !» disait de son côté le duc de Guise, « tâche donc de savoir qui est cet enragé. » « Corne du diable, le magnifique sanglier! Quel coup de boutoir! D'estoc, de pointe, de taille, comme il frappe !» Cet enragé, comme disait Guise, ce sanglier qui tenait tête à la meute humaine, c'était le chevalier de Pardeillan. Au moment où Cruset et sa bande se jetaient sur la litière, il avait vu que cette litière contenait deux femmes. Il voulut s'élancer et se sentit retenu par le bras. Celui qui l'agrippait au passage, c'était le bourgeois qui, tout à l'heure, lui avait donné de si complaisants renseignements. « Laissez faire !» cria cet homme avec une sorte d'emphase doctorale. « Laissez faire le peuple ! Rappelez-vous, vox populi, vox dei !»« Eh, monsieur !» répondit Pardeillan sans la moindre impatience, « je vous ai déjà signifié que je n'entends pas l'anglais. » En parlant ainsi, il se secoua. En se secouant, il envoya rouler le malencontreux latiniste sur les premiers rangs des assaillants. Puis il se précipita, tête baissée, comme un bélier humain. « Par Bacchus !» s'écria l'homme en soutenant d'une main sa mâchoire endommagée. « C'est là Hercule en personne, où je ne suis plus Jean Dora, Ioannus Auratus, le plus grand poète de la Pléiade, le Virgile de nos temps !»